à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du lundi 11 décembre 2017 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Mali, meurtre de 5 civils près de Niafunké au sud de Tombouctou.
En République démocratique du Congo, le premier ministre de Kabila, Bruno Tshibala, et l'opposition radicale anti-Kabila se disputent l'héritage et le nom de l'UDPS de feu Étienne Tshisekedi.
Au Kenya, le chef de l'opposition, Raila Odinga, a renoncé à organiser mardi une cérémonie d'investiture à la présidence parallèle.
Manifestation hier encore dans le monde arabe et musulman contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, les corps de 4 Maliens et d'un Togolais travaillant pour une compagnie chinoise de télécommunications ont été retrouvés sans vie dans le centre du pays. Les 5 ouvriers installaient des câbles de fibre optique près de la ville de Niafunké, au sud de Tombouctou. Des groupes armés avaient lancé des mises en garde en interdisant toute présence des entreprises dans la zone. Les précisions de Kassim Traoré.
Entre le sable mouvant, le vent glacial et le vent de sable, ces hommes étaient déterminés à accomplir leur mission. Malheureusement, tôt le dimanche 10 décembre 2017, les corps sans vie des 5 travailleurs de la société Huawei ont été retrouvés. Parmi les 5 corps, tous des employés, il y a 3 Maliens, un Togolais et un Burkinabé. Ils ont tous des contrats de travail avec l'entreprise Huawei dans le cadre de l'installation de la fibre optique au Mali. Les 5 corps ont été retrouvés près de Djanké, dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou. Ils avaient été enlevés la veille après avoir fini de réparer des fibres optiques coupées par des bandits armés. C'est pour cela que l'entreprise qui travaille dans la zone depuis 6 mois a vu ses travaux subir des retards à cause des actes de sabotage. Malgré l'assassinat des 5 civils, les bandits armés sont en train de couper toutes les fibres optiques déjà installées. Ils interdisent toute présence des entreprises dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les corps des 15 casques bleus tanzaniens tués jeudi dans l'Est seront rapatriés entre mardi et mercredi. Les circonstances de l'attaque attribuées à des rebelles ougandais sont loin d'être claires, Eric Manirakiza.
L'ambassadeur de Tanzanie en RDC et le responsable adjoint de la MONUSCO se rendent aujourd'hui sur la base de Semuliki à Beni, le site de l'assaut. Ils ont quitté hier Goma en hélicoptère. Ils vont d'abord rencontrer des officiers de l'armée congolaise et les membres du gouvernement provincial. Depuis la mort de 24 casques bleus pakistanais à Mogadiscio en juin 1993, c'est la pire attaque essuyée par les Nations Unies. L'assaut a été mené jeudi soir par des hommes lourdement armés. D'après le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix, c'est une attaque manifestement préparée. Le général James Mwakibolwa, numéro 2 de l'armée tanzanienne, a indiqué que les combats ont duré 13 heures. Il a précisé que des éléments des ADF ont attaqué la position des soldats tanzaniens. Les 15 morts sont tous tanzaniens. Il y a eu aussi 53 blessés. Ces forces démocratiques alliées, ADF, ne revendiquent pas leurs attaques. C'est un groupe armé ougandais musulman actif dans le Nord Kivu, replié en forêt, et combattent le régime du président ougandais Yoweri Museveni.
Toujours en RDC, un nouveau front de crise politique agite le pays où le premier ministre du président Joseph Kabila, Bruno Tshibala, et l'opposition radicale anti-Kabila se disputent l'héritage et le nom du parti historique d'opposition UDPS de feu Étienne Tshisekedi. Monsieur Tshibala a revendiqué la propriété du siège de l'UDPS à Limété, commune de Kinshasa et fief du fils de monsieur Tshisekedi. Il a été désigné dimanche président de l'UDPS lors d'un congrès extraordinaire à Kinshasa devant quelques centaines de militants surchauffés. Monsieur Tshibala est en train de prouver à la face du monde qu'il a été recruté par monsieur Kabila pour balkaniser l'UDPS, a réagi le porte-parole de l'UDPS branche limitée, Augustin Kabuya.
Au Burkina Faso, le président ROC, Marc-Christian Caboré, a appelé hier à rendre justice dans toutes les affaires sensibles, dont l'assassinat de Thomas Sankara, celui de Norbert Zongo, le putsch manqué et l'insurrection populaire pour aider le peuple à se réconcilier. M. Caboré a tenu ses propos dans un discours radio-télévisé à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina.
Au Kenya, le chef de l'opposition, Raila Odinga, a renoncé à organiser mardi une cérémonie d'investiture à la présidence parallèle, une décision perçue comme un geste d'apaisement envers le président Uhuru Kenyatta. L'opposition considère le résultat de l'élection du 26 octobre, qu'elle avait boycotté, comme une imposture. Uhuru Kenyatta a prêté serment le 28 novembre pour un second mandat de 5 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle vague de manifestations hier dans des parties du monde arabe et musulman contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Les forces de sécurité libanaises ont usé de gaz lacrymogène et de canons à eau devant l'ambassade américaine à Beyrouth pour repousser des protestataires libanais et palestiniens qui jetaient des pierres et brûlaient en effigie le président Trump.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, estime que les femmes qui ont accusé le président Donald Trump de harcèlement sexuel ont le droit d'être entendues. Elle l'a dit hier à Face the Nation de CBS News, que toute femme qui accuse quelqu'un doit être entendue. Que l'élection de M. Trump ait rendu ou non caduque le sujet, c'est au peuple de décider, a précisé Mme Haley. Cette position est contraire aux affirmations de la Maison-Blanche, selon lesquelles les accusations en question sont sans fondement et doivent être rejetés.
En Irak, les différents corps de l'armée ont fêté hier à Bagdad la victoire militaire contre le groupe État islamique. Les festivités devaient se poursuivre à travers l'Irak, à l'exception du Kurdistan, Jean-Roger Bion.
La parade militaire a eu lieu sur la place du monument aux soldats inconnus de la zone verte, secteur ultra protégé de Bagdad, abritant les principaux ministères et les ambassades. Le premier ministre Haider al-Abadi a rendu hommage aux familles des martyrs, ces militaires tombés au combat. Pour M. Abadi, la prochaine bataille sera la lutte contre la corruption, véritable cancer qui affecte le développement du pays. Le groupe État islamique s'était emparé du tiers du territoire irakien, menaçant en 2014 l'existence même de l'État. Le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite a salué une grande victoire contre le terrorisme. Le général américain à la tête de la coalition internationale contre le groupe djihadiste a félicité le gouvernement irakien, soulignant toutefois que beaucoup de travail reste à faire. Des experts estiment que malgré la perte de son califat proclamé en 2014, à cheval sur l'Irak et la Syrie, cette organisation terroriste possède encore des cellules qui peuvent agir et faire couler du sang.
Sommet demain sur le climat dans l'ouest de Paris, sur l'île Seguin. Plusieurs dizaines de dirigeants veulent accélérer une action climatique encore très insuffisante. Il y a 2 ans, jour pour jour, Paris avait abrité la COP21 pour adopter un pacte historique contre le réchauffement climatique. Le point avec Eric Manirakiza.
La France, l'ONU et la Banque mondiale organisent ce sommet consacré au financement. Cette initiative veut orienter la finance mondiale vers les investissements verts et notamment soutenir les pays du Sud. Une 50aine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sont annoncés. Des élus, entreprises, fondations américaines viendront dire que l'Amérique est toujours là. De grands acteurs mondiaux de la finance publique et privée, des ONG, l'acteur américain et fervent militant écologiste Leonardo DiCaprio sont aussi attendus. Les banques de développement et institutions publiques au sein du G20 dépensent annuellement 72 milliards de dollars dans des projets liés aux fossiles, c'est 4 fois moins pour les énergies propres. Le pape François a souhaité l'adoption des décisions efficaces pour contrer les changements climatiques et combattre la pauvreté. Les pays du Nord ont promis de porter à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 leur financement climat aux pays du Sud. Les besoins mondiaux en infrastructures durables sont estimés à 90 000 milliards de dollars d'ici à 2030.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriac.
Un projet immobilier de plus de 14 milliards de dollars en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un bâtiment à usage de bureaux, avec de nombreuses salles, notamment un centre de conférence de 300 places. Deux autres immeubles à 6 niveaux chacun abriteront des habitations et résidences de court et long séjour, un restaurant, une salle de gym et d'autres installations de loisirs. La Chine a accordé au Zimbabwe un crédit de 153 millions de dollars pour agrandir et rénover l'aéroport international d'Harare, baptisé Robert Mugabe, peu avant son éviction du pouvoir. Il sera remboursé dans 20 ans sur un taux d'intérêt annuel de 2% avec une période de grâce de 7 ans. Deux autres subventions de plus de 60 millions de dollars concernent la construction d'un nouveau bâtiment du Parlement et l'agrandissement d'un centre informatique à l'Université du Zimbabwe. Il s'agit du premier accord de prêt post-Mugabe avec un gouvernement étranger. La croissance de l'économie nigériane connaîtra moins de progression en 2018, mais affiche de l'optimisme. L'agence de notation Fitch évoque la faiblesse des revenus du pétrole et la pénurie de devises comme le dollar. Le PIB courant est habituellement évalué à plus de 500 milliards de dollars, mais l'État fédéral éprouve des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour financer son budget de 30 milliards de dollars.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Une triste nouvelle pour commencer, la mort du Camerounais Benjamin Massing.
Oui, l'ancien international camerounais, 21 sélections, est mort hier dimanche à son domicile à l'âge de 55 ans. Il avait participé au mondial italien de 1990 avec le maillot des Lions Indomptables. Benjamin Massing avait porté les couleurs de l'US Créteil entre 1987 et 1991.
Mondial des clubs, le WAC battu d'entrée.
Le champion d'Afrique n'a pas fait long feu dans cette compétition qui se déroule actuellement aux Émirats Arabes Unis en se faisant battre par le champion de la CONCACAF Opachuka 1-0 après prolongation. Le Wydad, réduit à 10 depuis la 69e minute suite à l'expulsion d'Ibrahim Nakash, a fini par céder dans les prolongations sur un but de Guzman. L'aventure des Casablancais s'arrête donc au stade des quarts de finale. Pachuca jouera la demi-finale mercredi prochain face aux Brésiliens de Grêmio. L'autre demi-finale mettra aux prises le Real Madrid aux Émiratis d'Al Jazeera. Le WAC, quant à lui, disputera le match pour la cinquième place contre Red Diamonds.
Football avec la CECAFA Cup, la Coupe des Nations d'Afrique centrale et de l'Est qui se déroule actuellement au Kenya.
Oui, et elle aborde demain sa dernière journée des matchs de poule. Dans le groupe A, Zanzibar, déjà qualifié, va affronter la Libye invitée pour cette édition. Et puis le pays hôte, le Kenya, deuxième au classement, sera face au dernier du groupe, la Tanzanie. Dans le groupe B, le Burundi tentera de valider son billet face au Sud-Soudan. A noter que hier, l'Ouganda s'est qualifié pour les demi-finales suite à son match nul, un but partout contre l'Éthiopie.
Direction la Côte d'Ivoire avec le choc ASEC Africa de la 10e journée du championnat.
Et ce sont les Mimos qui sortent vainqueurs de ce classique sur la marque de 1 but à 0. Ils confortent leur place de leader avec 25 points devant AFAD 21. L'Africa Sport compte 17 points et occupe la 5e place. Dimanche du derby également en RDC avec la 5e journée dans la zone ouest. Et le Terrain Club Motéba Pembe est toujours leader suite à sa victoire de 1 but à 0 devant FC Renaissance. Pas de vainqueur en revanche au centre sud entre Sanga Balende et TP Mazembe. Les deux équipes ont fait jeu égal 0 à 0. C'est le Popo qui est en tête dans cette zone avec 13 points.
Handball à présent avec les 8e de finale de la Coupe du Monde féminine.
Et c'est sans les représentants africains, tous éliminés au premier tour, qu'on a assisté hier au premier match. La France, vainqueur de la Hongrie 29-26, va défier demain en quart de finale le Monténégro qui a éliminé la Serbie 31-29. Pour le reste, on note les victoires faciles de la Suède 33-21 contre la Slovénie et du Danemark 21-17 devant l'Allemagne. La suite aujourd'hui avec toujours 4 matchs. Russie, Corée du Sud, Roumanie, République tchèque, Espagne, Norvège et Japon, Pays-Bas.
Basketball et début aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des clubs champions.
Au total, 12 clubs repartis dans deux groupes de 6 vont prendre part à cette édition qui aura lieu à Rades en Tunisie. Notons l'absence des clubs égyptiens. La compétition se déroulera du 11 au 20 décembre prochain. Le match ouverture est prévu dans la journée entre les Nigériens de Kano Pilaz et les Marocains de l'AS Salé. Et puis, on reste dans ce domaine pour avoir avec vous Idrissa les résultats de la nuit en NBA.
New York et Atlanta 111-107, Minnesota et Dallas 97-92. Nouvelle-Orléans, Philadelphie 131-124, Indiana et Denver 126-116, Detroit et Boston 81-91, Sacramento et Toronto 87-102.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, comparaîtra finalement devant le tribunal correctionnel pour répondre des accusations d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur 1,8 milliard de dollars, de francs CFA, je répète, portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Le 5 décembre dernier, les proches de M. Sall espéraient lui éviter un procès en déposant une caution après une longue période de collecte de fonds. Aujourd'hui que cette requête a été rejetée par le juge d'instruction, ces derniers réclament un procès équitable pour le maire de Dakar. Notre correspondant sur place, Seydina Abagay, fait le point.
Un vaste élan de solidarité s'était pourtant formé pour mobiliser cette caution et obtenir la libération de Khalifa Sall, comme l'indique Ware Diaw, adjointe au maire de la ville de Dakar.
Le cautionnement, c'est de l'argent, c'est des biens, des immeubles, des terrains que la famille de Khalifa, les amis, les parents et même des gens qui n'ont pas connu Khalifa mais qui pensent qu'il est détenu arbitrairement, ce sont ces gens-là qui ont participé à cette caution. Des jeunes très dévoués étaient souvent dans les rues de Dakar, dans les marchés, dans les garoutières, partout pour collecter cette caution.
Pour le juriste maître Babacar Ndoye, le refus de cette caution peut se comprendre vu certaines dispositions juridiques.
Lorsque la mise en liberté provisoire est subordonnée au cautionnement, là, il faut que ce versement soit fait en espèces. Ça, c'est les dires du législateur sénégalais. Je considère que ce dernier a rejeté peut-être parce qu'il y a l'absence du versement en espèces tel que prévu par la loi. Mais je tiens à le dire et j'insiste qu'il y a des jurisprudences où on a versé des biens en nature.
Babacar Tchoïba, directeur de cabinet adjoint du maire de la ville de Dakar, affirme que Khalifa Sall est victime d'un acharnement depuis le début de cette affaire. Cependant, il espère qu'il aura un procès équitable.
Il y a non seulement un acharnement sur Khalifa pour des raisons purement politiques, mais surtout, il y a une justice sur mesure. Maintenant, s'agissant du procès, il va de soi que nous le préparons avec sérieux, avec méthode, et nous allons, avec les avocats de Khalifa Sall, nous battre avec tous les arguments de droit que la loi nous donne. On espère, on souhaite que, pour une fois dans cette affaire, la justice sera indépendante.
Maître Babacar Ndoye, juriste, estime que ce procès est une bonne occasion pour les magistrats de faire taire les critiques à l'encontre de la justice.
Dans un état de droit, lorsque la justice n'est pas respecté par le corps social, c'est très dangereux. Et si, par exemple, aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est décrié, là, je pense que les magistrats doivent faire tout pour redorer leur blason et permettre au peuple sénégalais d'avoir confiance en eux et de rendre, n'est-ce pas, une justice quand même équitable aux yeux de tout le monde.
Après plus de 9 mois d'instruction, le dossier du maire de la ville de Dakar arrive à un tournant décisif. Khalifa Sall va comparaître devant le tribunal correctionnel qui devra déterminer s'il est coupable des faits de détournement de deniers publics qui lui sont reprochés. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Tchad, toutes les manifestations hostiles au régime de début au pouvoir depuis 27 ans ont été systématiquement interdites par le ministère en charge de la sécurité publique. Une exception donc, celle qui tend à soutenir la politique du gouvernement. La société civile dénonce ainsi ce qu'elle appelle une politique de deux poids, deux mesures. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
La démocratie n'est pas seulement l'organisation des élections, mais aussi le respect de la Constitution, déclare un président africain. Mais au Tchad, l'article 27 de la loi fondamentale qui garantit les libertés d'opinion, d'expression et de manifestation n'est pas appliqué à tous. Toutes manifestations qui n'arrangent pas le parti au pouvoir sont interdites ou réprimées. contre toute attente, le même gouvernement a autorisé une société civile proche du pouvoir « Touche pas à mes acquis » d'organiser une manifestation hostile aux Américains le 26 novembre dernier. Du coup, 6 organisations de la société civile se constituent en un collectif et entendent descendre dans la rue. Mohamed Nouri Bédou en est le porte-parole.
Le fait d'avoir autorisé cette manifestation grotesque dénote une injustice flagrante et arbitraire contre nos préavis de marche systématiquement interdits. Le collectif des organisations de la société civile est donc décidé à organiser des marches pacifiques et des actions citoyennes contre les mesures antisociales déjà prises et celles à venir par M. Idriss Déby, marche dont elle fixera la date dans un bref délai.
Avec cette situation, le Tchad est en train de basculer vers un régime totalitaire, estime le politologue et ancien chercheur Dr. Ivaris Ngarlem Toldé.
Nous sommes face à un régime totalitaire parce que on voudrait bien savoir qui est celui-là qui a autorisé la coalition Touche pas à mes acquis de manifester et qui est ce ministre-là aujourd'hui qui interdit aux autres de ne pas manifester. Qu'est-ce que les gens craignent?
Le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir, ne reconnaît pas avoir autorisé une manifestation publique.
Aucune autorisation de marcher sur la voie publique a été délivrée à qui que ce soit. Eux, ils font allusion à la société civile de Gadimbaï, alors qu'il a organisé sa manifestation dans une salle fermée. Maintenant, à la sortie, d'autres militants ont tenté de marcher et la police a intervenu pour les disloquer. Moi, je m'en tiens à la loi. Si cette autorisation, ils me trouveront sur le chemin.
Pour le politologue Dr. Evaris Ngarlem Toldé, le ministre de la Sécurité publique est en train de provoquer les Tchadiens.
C'est de la provocation, ça. Et je crois que la société civile, la vraie, je veux dire, sera obligée de braver cette interdiction et puis d'exprimer son mécontentement face à ces mesures antisociales que le gouvernement continue à appliquer. Mieux vaut sortir mourir dans la rue que de rester mourir à la maison.
Les syndicalistes, quant à eux, se réservent le droit de descendre dans la rue si le président Déby maintient sa décision, celle de geler les avantages de tout travailleur pour les ramener aux années d'avant-pétrole. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, les populations riveraines du parc national d'Odzala-Kokua à Mbomo, dans le nord, disent vivre un vrai calvaire et ce suite à une politique de conservation jugée trop brutal. De Brazzaville, reportage de notre correspondant Gwela Ngusu.
Dans les villages voisins de ce parc soumis aux strictes règles de la conservation, les habitants font face à 3 problèmes. D'abord, leur territoire de chasse s'est réduit chaque année au point où ils n'ont presque plus le droit de chasser. Paul Aboulo, chasseur au village Lisanga.
On est en train de nous terroriser, on nous brutalise. Ils font même des patrouilles dans les zones banales. Perquisition, peut-être qu'à 1h du matin, on vient me perquisitionner à 1h du matin jusqu'à retirer mon âme dans la maison. On nous applique ici l'apartheid, ce n'est pas le genre de conservation normale, c'est l'apartheid ici.
Ensuite, il y a la désolation due à la dévastation des champs par les éléphants. Espèce intégralement protégée au Congo, l'éléphant consomme et détruit allègrement les champs de manioc, de maïs ou de bananiers, souvent sans dédommagement de la part de l'État. Mohamed Ake, responsable d'une ONG qui lutte pour l'environnement sain au village Ebana.
On achète le manioc après 20 km, après 15 km, parce que les éléphants ravagent tout. Parce que aussi, notre activité principale, qui est l'agriculture, est bafouée, est dérangée. Non, il n'y a pas d'issue. Ça fait aujourd'hui, moi personnellement, j'ai écrit à l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées depuis plus de 3 ans. Mais on ne répond pas. J'ai écrit au ministère. Il n'y a pas de réponse. J'ai tenté de voir le sous-préfet, j'ai tenté de voir l'African Park. En tout cas, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas d'issue.
Les deux phénomènes créent la famine dans les villages, d'où l'exode freiner des paysans vers les districts de Mbomo et surtout d'Itumbi où on trouve encore du manioc. Yvon Bambo, un refuge alimentaire à Mbomo.
Quand je vais rester au village, comment je vais faire pour vivre avec ma famille? Oui, on a fait parce que l'éléphant nous menace, donc on n'a pas moyen de cultiver. On est là toujours comme ça toute la journée, vous faites rien là, il n'y a pas de boulot, bon, comment tu vas rester au village avec la famille?
Face à l'absence de l'action de l'État dans ces villages, la société civile se dit très inquiète. Alban Tieté de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Et ça c'est vraiment criard, donc nous sommes vraiment déçus. Quand les communautés sont abandonnées à elles-mêmes, c'est pour que le gouvernement puisse regarder ces questions. et ensemble avec les communautés, avec tous les acteurs.
À la direction du parc d'Ozala, on brandit la rigueur de la loi. Plusieurs autres projets comme l'habituation des gorilles à Ebama et bientôt le tourisme de luxe ne sont pas de nature à garantir l'existence pour longtemps de ces villages. De retour du parc national d'Ozala, Nguela Ngoussou, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Les Burundais consomment de l'alcool très jeune, dès l'âge de 7 ans dans certains cas, et de façon excessive. Les scouts et guides du Burundi tentent de renverser cette tendance grâce à une campagne de sensibilisation. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Kibarbe, Kanyanga, Umukurura Jipo ou Umudrink sont des sortes d'alcool traditionnels prisés par la plupart des jeunes au Burundi, en plus de la bière traditionnelle de Banal ou des produits de la principale brasserie et limonaderie du Burundi. La bière est présente à chaque coin de rue des villages et des villes du Burundi profond. L'association des guides et des scouts du Burundi s'est donnée comme mission de sensibiliser depuis 2009 sur cette consommation excessive de différents types d'alcool. Toutes les provinces sont sillonnées par une équipe des guides et scouts pour apprendre à la jeunesse à se comporter autrement. Ces demoiselles, Janine Dikurio de la province de Ngozi au nord du Burundi, nous livre son témoignage, elle qui était devenue dépendante de l'alcool.
Premièrement, j'étais devenue l'amie de la boisson alcoolisée. Je me comportais autrement après en avoir ingurgité des litres. J'avais abandonné les études et mes relations avec mes parents et les amis. Mon ami préféré, c'était la boisson. Mais après avoir suivi les enseignements de l'association des guides et scouts du Burundi, et ces enseignements m'ont réellement transformée. Je suis revenue dans ma famille que j'avais abandonnée. J'ai demandé pardon à ma famille. Maintenant, je me porte bien car je suis retournée à l'école. Aujourd'hui, je vais terminer mes études. Le voisinage peut même témoigner de mon changement positif de comportement.
Jean-Marie Niokubgaio, lui, a terminé les études mais ne parvient pas à abandonner l'alcool qu'il a commencé à prendre à 10 ans. Témoignage.
J'ai commencé à boire en bas âge. Maintenant, j'ai terminé mes études. J'ai continué à boire à un niveau un peu avancé. Il y a un ami qui m'a approché et qui m'a sensibilisé. Et j'ai vu que moi, dans l'alcool, c'est pas quelque chose de faire confiance parce que ça ruine nos vies. Personnellement, je commence à voir que en continuant à boire à ce niveau, je ne peux pas arriver à faire quelque chose dans ma vie. Maintenant, j'ai pris une décision de boire modérément, même à abandonner carrément, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire confiance en me voyant dans l'état d'ivresse.
Ida Claire est une des responsables des guides au Burundi qui est au fait de l'insouciance des jeunes Burundais face à l'alcool. Ida indique que plus de 30 000 jeunes ont déjà bénéficié de leur formation. Elle tente d'expliquer pourquoi les jeunes Burundais s'adonnent souvent à l'alcool.
Les jeunes ont été utilisés par les politiciens parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'ils n'ont pas de boulot. On peut manipuler la jeunesse juste avec une bouteille d'alcool. Les jeunes, étant donné aussi que la culture du Burundi favorise la consommation d'alcool dès le bas âge, il n'y a pas de loi pour que l'enfant grandisse en sachant que c'est interdit de boire de l'alcool avant tel âge.
Ida Claire indique que l'urgence aujourd'hui est de mettre en place une loi qui interdit aux jeunes de consommer excessivement l'alcool.
Via le réseau que nous avons initié et via les actions que nous sommes en train de mener dans la population, on continue la sensibilisation et aussi à essayer de toucher beaucoup plus de décideurs afin de comprendre la nécessité qu'il y ait une loi ici au Burundi qui protège les jeunes.
C'est vrai que boire, ça prend en famille, mais l'alcool est disponible pour les jeunes dans les nombreux bistrots et bars. Même si l'alcool reste un élément socialisant dans la culture, il devient réellement en danger pour s'il est consommé régulièrement, selon des spécialistes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique. Et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Robertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.